épisode numéro 181 de Bonjour PPC, le 181. On parle de la WWDC 2019. De quoi s'agit-il ? Ah là là, ben on a des nouveautés cette semaine. Oui, c'est la conférence mondiale des développeurs de chez Apple. On va parler d'iOS 13 pour iPhone, de WatchOS 6 pour Apple Watch, d'un OS propre pour l'iPad, des applications iPad avec pour le Mac et du hardware avec un tout nouveau MacBook Pro haut de gamme, la WWDC, cette conférence de développeurs. On en parle tous ensemble. Et pour le faire, je ne le fais pas tout seul, je le fais avec vous tous, mais j'ai un invité de marque. Je vous présente notre ami Patrick, il est là.
Salut PPC, salut la Podcast Room.
Ça va bien.
Et salut la Room aussi. Ouais.
Alors, vous savez, pour le grand public, la WWDC, c'est souvent résumé au keynote d'ouverture. Et oui, cette conférence qui démarre à 10h, heure de la Silicon Valley, c'est-à-dire 19h, heure de Paris. Mais non, c'est pas la WWDC, c'est pas que le keynote. Le keynote, c'est le démarrage. Voilà, ça se tient chaque année. C'est l'occasion pour Apple à chaque fois de dévoiler de très grandes choses. C'est une conférence de développeurs. C'est en septembre qu'il y aura peut-être du hardware présenté, même s'il y a eu un peu de hardware ce coup-ci. Voilà, c'est né, ça a été inventé par Steve Jobs. Hein. C'est une conférence en fait qui a permis de présenter à chaque fois les nouveautés et qui fédère la communauté des développeurs qui travaillent autour de Apple. Cette communauté sans quoi Apple ne serait pas grand-chose, à mon sens. Enfin, font des choses bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Patrick.
C'est clair, hein, ouais. Ouais, absolument. Ouais,
alors, on a repéré plein de nouveautés. Déjà, peut-être on peut parler de la WWDC en elle-même.
Qu'est-ce alors, tout à fait. Alors, donc, il y a déjà, donc, chaque année, il y a un rituel. Hein. Alors, il faut savoir donc, qu'elle se trouve à San José, en fait, depuis quelques années. Mais à l'origine, en fait, elle était déjà à San José. Ensuite, elle est revenue à San Francisco. Et puis, aujourd'hui, elle est repartie à San José. Alors, bon, il y a une ambiance très différente entre San José et San Francisco, mais à chaque fois c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Alors il y a un certain nombre de rituels, hein. Il y a donc la keynote d'ouverture, hein, bien évidemment, où en fait on essaye de résumer tout ce qu'il va y avoir, en fait, toutes les tendances de l'année au niveau de la WWDC. Alors c'est quelque chose aussi de très grand public en fait, parce que comme vous l'a dit PPC, la WWDC c'est quand même très technique, hein, c'est fait pour les développeurs. Mais d'année en année, bien évidemment, ça s'ouvre au grand public et bien sûr tous les journalistes sont présents, tout le monde de la tech est présent. C'est le troisième événement, je dirais, après Google, après Facebook, après Microsoft aussi. C'est, on va dire, le dernier grand événement développeur de l'année en fait. Donc à part la keynote, on a une conférence après qui s'appelle donc Platform State of Union. Donc là en fait, on résume beaucoup plus techniquement ce qu'il y a eu dans la keynote, mais c'est beaucoup plus technique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette année, et puis depuis quelques années déjà, Apple ouvre beaucoup plus. Il faut savoir qu'avant, les journalistes n'avaient accès que à la keynote d'ouverture. Le reste, c'était absolument interdit, ils devaient partir. Et donc, tout le restant de la semaine, c'était réservé aux développeurs. Je me rappelle, moi, j'y suis allé donc une année. On n'avait même pas le droit de filmer, même pas le droit de photographier, en fait. C'était vraiment très, très strict. Et les informations diffusées par Apple étaient vraiment très confidentielles. On signait une charte de confidentialité. Comme autre événement, il y a donc l'Apple Design Awards. Donc là, en fait, on remet un prix à la plus belle application. Donc je crois cette année, il y en a plusieurs qui ont été nommés. On vous mettra les raccourcis sur site.
Tous les liens sont dans les notes de bas d'épisode de votre plateforme de podcast préférée. Donc vous allez retrouver tout ça, le Apple Design Awards, hein, qui met toujours en avant les applications où la communauté Apple se dit ça met bien en scène et ça utilise parfaitement ce que la technologie permet de faire. Donc en fait c'est aussi cette façon, cette simplification aussi fait par les développeurs, et donc c'est vraiment cette mise en scène. Donc d'ailleurs, si vous voulez comprendre à peu près les tendances soit du design, soit de ce qui se fait de mieux en termes d'appli, allez voir toujours l'historique des Apple Design Awards. Vous allez voir, vous allez découvrir toujours des applis qui changent le sujet, qui simplifie. On avait vu il y a quelques années une application comme Vivino, par exemple, qui permet toujours d'ailleurs de scanner une bouteille de vin et de pouvoir avoir des jeux aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Cette année, c'est quand même un peu ludique, j'ai trouvé, dans les applications qui ont été mises en scène.
C'est effectivement assez ludique. Et sinon, il y a les labs. Donc là, quand vous avez un problème, si vous allez à la WWDC, ben, en fait, vous avez tout le staff Apple présent, tous les techs Apple qui sont là, et donc qui peuvent vous aider à la fois pour le monde professionnel, pour les développeurs. C'est vraiment, et c'est aussi la raison pour laquelle la WWDC est si proche en fait du siège social d'Apple, parce que ça permet à tous les groupes développeurs d'Apple de pouvoir venir les uns après les autres pendant cette conférence. Et puis il y a un événement avec de la musique, il y a à manger, et enfin c'est un véritable événement, donc qui a lieu donc une fois dans la semaine. Alors malheureusement à l'Apple Park pour l'instant ça n'a pas eu lieu, donc ça a lieu à San José je crois encore cette année, et ça dure une partie de la nuit en fait. Et ça aussi c'est assez exceptionnel dans la WWDC. Et je
Et
voulais
puis, et
juste.
puis, et puis, et puis, il y a une soirée, il y a une soirée qui est organisée pour les développeurs français aussi.
Alors
Ouais,
exactement. Alors
chaque année,
chaque
soir.
soir en fait, San José, une partie de San José, les bars et tout est privatisé par un des sponsors en fait de la WWDC. Bon, je sais, j'y avais été une année, donc c'était Microsoft. Ils avaient fait quelque chose d'assez exceptionnel. Faut savoir que à l'époque, Microsoft et Apple, c'était pas vraiment le bonheur entre les deux. Et ils ont fait quelque chose d'absolument exceptionnel pendant une partie de la nuit. C'était absolument incroyable.
Alors, il y a Pierre qui est dans la room et qui nous dit, ben, c'est en anglais, bien entendu. Pierre qui a été
Absolument, oui,
aussi, plus,
absolument.
il a été deux fois, je crois, de Pierre, justement, à la WWDC. Tu peux peut-être nous en parler si tu as 2 minutes, Pierre. C'est Benjamin qui nous dit, oui, Apple veut mettre en avant les jeux. C'est pour ça que les Awards vont dans ce sens. Et c'est vrai qu'on a vu que sur le store Apple, dans la version qui va sortir en septembre, hein, on le voit aujourd'hui dans la version iOS 13, il y a une partie de jeu. Hein. Et le
Exactement,
gaming va
absolument. Le
accélérer.
gaming, le
Ouais.
gaming devient très important pour les GAFA en fait, hein, pour Google, pour Apple, pour un peu tout le monde, hein,
Parce que
pour
justement sur le jeu,
Amazon
Patrick,
aussi.
on a même vu que les manettes de console traditionnelles allaient pouvoir fonctionner, c'est
Exactement,
ça? Tu peux nous expliquer un
absolument,
petit peu ce
ouais.
que ça va être?
Sur, alors ça va être sur iOS, ça va être sur tvOS. Donc en fait, vous allez pouvoir mettre vos contrôleurs Bluetooth dans de la PlayStation 4 et de la Xbox que vous allez pouvoir utiliser. Donc iPadOS, iOS et tvOS en fait. Et alors je vais juste rajouter une chose, c'est que c'est un peu concernant la réponse à Laura qu'elle m'avait posée.
Merci Pascal pour
En
vos notes.
fait, c'est la WWDC, il y a une version française qui avait lieu à Deauville. Pendant plusieurs années, on était à peu près 200 développeurs pendant une semaine. Et en fait, c'était une semaine ou 15 jours après la WWDC américaine. Et en fait, on débriefait pendant une semaine à Deauville, au casino. En fait, on était tous là. Et c'était aussi une ambiance française très, très sympa. Puis après, ça a été repris par les Américains. Et donc, ça a été abandonné ici en France. Alors voilà, maintenant on va aborder les différents sujets. Hein. Donc il y avait donc pour macOS. Alors bien évidemment, comme chaque année, on a eu une nouvelle version de macOS. Donc cette année, elle s'appelle Catalina. Catalina, en fait, c'est une île qui se trouve au large de Los Angeles. Et donc voilà, c'était un peu la surprise. Alors d'habitude dans cette keynote inaugurale, on fait durer le plaisir, on dit pas tout de suite le nom de la version de macOS, mais là cette année, il y avait tellement de choses, je pense, à annoncer, c'était tellement long qu'on a lâché directement le nom. Donc c'est macOS 10.5 Catalina. Alors
Ouais.
qu'est-ce
Alors,
qu'on a là?
elle est pas mal cette version. Moi, je l'ai
Alors,
installée sur mon Mac. Elle est plutôt pas mal.
elle est
J'aime
plutôt pas
bien.
mal. Alors on est sur une première bêta, hein, donc
Stable. Elle
stable,
fonctionne.
voilà. Bon, moi
J'ai pas eu un
je vous
plantage
conseille quand
depuis
même pas,
mardi,
si
moi.
vous n'êtes pas développeur, je vous conseille pas de l'installer. Vous aurez la version développeur grand public qui arrivera, je crois, à la fin du mois ou au début du mois prochain. Donc en fait, il faut savoir que toutes les bêtas majeures d'Apple, en fait, Apple propose une version fermée, vraiment pour les développeurs. Et puis ensuite, il propose une version grand public bêta, qui est la même, mais certainement beaucoup plus stable. Donc, malgré tout, très tôt, hein, pour un OS, puisqu'on est à la première version publique. Donc bon, ça prend, c'est quand même pas évident. Donc moi, si vous êtes pas développeur, je vous conseille pas de l'installer tout de suite. Hein. Mais effectivement, elle est très stable, quoi. Alors dans les nouveautés, ben on a des reprises de choses qui étaient sur iOS en fait. Donc on a le screen time, c'est-à-dire le temps d'utilisation de votre de votre machine. Donc ça reprend un petit peu ce qu'on avait sur iOS en fait, hein. C'est dans le tableau de commande en fait. Vous avez, alors vous pouvez pas changer la taille de la fenêtre, c'est un petit peu dommage, mais bon. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a au niveau de la sécurité, on a quand même une séparation entre l'OS et vos datas sur le disque. Mais comme c'est Apple, c'est totalement transparent pour vous, vous voyez
Parce que
strictement rien.
justement, il y a Quentin qui nous dit, oui, mais ils n'ont pas à changer grand-chose, c'est le même OS en fait. Alors ils n'ont pas réinventé la roue avec ce nouveau macOS, c'est le même OS. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors en fait, si, dans le noyau de macOS, il y a quand même un gros changement. C'est que tout ce qui s'appelait l'IoKit avant, c'est-à-dire en fait toute la partie en fait des entrées-sorties, tout ce qui est driver, en fait n'est plus dans le mode kernel, c'est-à-dire au cœur du système, mais il est au niveau utilisateur.
Et ça
Donc,
change quoi alors?
alors en fait, ben, c'est sujet à beaucoup d'instabilité au niveau du macOS, et comme c'est dans le cœur du système, quand ça plante, ça risque de planter l'ensemble de la machine. Donc ça apporte beaucoup plus de stabilité. Et puis en plus au niveau sécurité, c'est quand même quelque chose d'assez important. De plus, la prise en compte de la puce de sécurité qui se trouve sur les derniers MacBook Pro, sur l'iMac Pro, sur le nouveau Mac Pro, qui s'appelle T2 en fait, qui est prise en charge. Jusqu'à présent, elle n'était pas forcément prise en charge pour les développeurs et tout ça. Bah, maintenant, on a la possibilité d'accéder à ces fonctions.
Et pour l'utilisateur, ça change quoi en vrai?
Plus de sécurité en fait.
Beaucoup plus de
Voilà,
sécurité,
plus de
ça c'est bien.
sécurité. On va vraiment vers des renforcements de la sécurité, mais c'est le cas chez tout le monde, hein. C'est dans le cas aussi de Windows. Mais Apple, il tient vraiment. C'est vrai qu'on est quand même dans un monde qui est quand même beaucoup plus sécurisé pardon, que le monde Windows, mais Apple renforce encore les sécurités. Alors, la grande surprise, je dirais, ça a été en fait la possibilité de faire tourner des applications iOS sur Mac. Donc, on s'attendait vraiment à un véritable portage. En fait, non, il n'y a que iPadOS qui pourra, donc des applications iPadOS qui pourront être portées sur macOS. Donc, c'était le projet Marzipan, en fait, qui s'appelle maintenant, je ne sais plus comment exactement, mais donc finalement, ça n'a pas été la grosse nouveauté comme on pouvait l'attendre, hein, comme tout le monde pouvait attendre de cette version de macOS. Alors, il y a aussi une autre chose qui a été présentée, c'est la disparition de iTunes. Voilà. Donc, on va dire que, en fait, donc, il a été séparé en fait en trois parties. Donc, la partie podcast est maintenant indépendante. La partie
Musique.
musique, c'est musique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme troisième partie? Il y en a un troisième, mais je ne sais plus. Donc, en fait, ça a été séparé en trois parties. Et puis,
En
alors
quatre, en
maintenant,
quatre, nous dit Quentin même.
en quatre,
En
alors.
quatre.
Et donc, une partie quand vous connectez votre iPad ou votre iPhone dessus, eh bien, en fait, maintenant, c'est dans votre Finder. C'est plus du tout à l'intérieur de l'application iTunes.
Oui, alors c'est intéressant d'ailleurs parce que quand on connecte son iPhone pour mettre à jour, en fait, on va dans le bureau du Mac et en fait c'est dans le Finder du Mac qu'on va pouvoir
Voilà,
trouver
exactement.
et on va pouvoir dire je veux appairer mon iPhone avec le Mac et après voilà. Donc en fait c'est sorti d'iTunes. Si l'application qu'il y a, donc on n'a plus iTunes, on a musique, on a podcast et on a la TV.
Et
Et
voilà,
on a la
exactement,
TV,
et
on
on
a
a
la
la TV,
TV.
voilà,
Et voilà,
exactement.
et
C'était la
voilà.
troisième, c'était la
Et c'était
TV,
la troisième, mais il
effectivement,
n'y en a
voilà,
trois.
tout
Pour
à
l'instant, il
fait,
n'y en a que
tout à
trois.
fait,
Mais ça va
absolument, ouais,
changer, voilà.
absolument. Alors maintenant, alors en ce qui concerne iOS, alors donc c'est iOS 13. Alors, sur iOS 13, on a quoi? Ben, on a bien évidemment le dark mode, hein. Comme on avait l'année dernière sur macOS, eh bien on a le dark mode qui arrive sur iOS, qui arrive sur iPadOS et qui arrive aussi sur WatchOS. Donc voilà. Alors on a au niveau des emojis, on a un petit peu plus de choses de personnalisation possible sur les emojis.
Ah, mais le Memoji, alors le Memoji qui est plutôt sympa, en fait, vous savez, vous pouvez choisir votre petit avatar. Et ce petit avatar qu'on peut choisir, effectivement, depuis d'ailleurs, je crois, l'iPhone X, hein, je crois, c'est
Ouais,
appelé
tout à fait,
ça.
ouais, absolument.
Là, maintenant, s'enrichit d'un certain nombre de variantes. C'est-à-dire que vous avez votre personnage et votre personnage, on vous propose des différents stickers, en fait, qui sont totalement paramétrés par rapport à votre personnage. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu l'utilises beaucoup, toi. Moi, je l'ai peu
Non,
utilisé.
j'utilise pas énormément. On l'utilise dans les débuts, beaucoup dans les débuts,
Ouais,
parce que c'est
voilà.
fun, on envoie aux gens et tout. Et puis après, bon, c'est vrai que.
Voilà.
Alors, vous avez aussi la possibilité, vos Memoji, d'en faire des stickers pour les envoyer aux gens. Alors, je ne sais pas si ça marche sur les autres plateformes quand ils le reçoivent. Faudra voir
Ouais.
ça.
C'est Benjamin qui nous dit quand même que c'est la convergence des OS qui arrive petit à petit quand même dans l'univers
Je suis
Apple. Qu'est-ce
pas
que tu en penses?
persuadé, ou tout au moins partiellement.
Ouais.
Peut-être au niveau de l'interface, mais il y a quand même beaucoup de travail. C'est un peu long d'en parler ici, mais il y a quand même beaucoup de travail en fait avant qu'on ait une véritable fusion. Puis il a quand même été dit l'année dernière qu'il n'y aurait pas de fusion entre iOS et macOS. Et on le retrouve d'ailleurs cette année, hein. Je ne pense pas qu'on va vers
Et alors,
véritablement une union.
qu'est-ce qui, selon toi,
Mais, hein.
préside à cette stratégie? Parce qu'on le voit côté utilisateur, il y a quand même un certain nombre de codants qui restent les mêmes, hein,
Alors,
qu'il faut que ça simplifie quand même. Quand on passe de l'iPhone à l'iPad au Mac, on se retrouve dans un univers connu,
eh
dans,
ben,
avec des réflexes.
en fait, la réponse pendant la keynote d'ouverture, sur scène est monté le patron de Jira. Donc c'est une application de Jira Confluence, hein. Et en
Ça,
fait,
c'est pour les développeurs et pour
voilà, tout
le
à fait.
travail en mode agile, hein, pour travailler en mode agile.
Et donc il a porté en fait, hein, son application iOS sur macOS, ou le contraire, hein. Et il a dit, bah, quasiment dès le début, il a dit une chose très simple. Aujourd'hui, j'ai deux équipes, demain, j'en aurai plus qu'une, et tout le monde va programmer de la même façon. Voilà,
Ah, voilà.
ça résume très bien, et il explique qu'il va faire des économies, qu'il va avoir besoin de moins de personnes, et voilà, donc ça résume très bien le contexte, hein. Une seule équipe de développement, parce qu'il faut bien voir quand même une chose, iOS, le cœur d'iOS, c'est quand même le même que celui de macOS, donc toutes les couches basses sont exactement les mêmes. Après, au niveau de la gestion de la mémoire, il y a des différences, mais les kernels sont identiques en fait, hein. Donc voilà,
Mais c'est
c'est.
Benjamin qui nous dit, ça c'est très intéressant et c'est l'avenir. Et il répond un peu à notre ami Quentin qui disait, oui, mais le dark mode, c'est pas vraiment une nouveauté. Et c'est simple, la réponse est simple. Apple prend toujours son temps pour perfectionner des fonctions qui sont évidentes. Et quand ils les sortent, ça marche.
Exactement,
Et voilà. Et
exactement,
ça change tout.
exactement.
Voilà.
Alors sur iOS, j'avais une grosse déception, c'était Shortcut raccourci, parce que je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais en fait, si, je me suis vraiment trompé. Et sur iOS, ben si, en fait. Alors déjà, Shortcut est intégré maintenant dans le système, ce n'est plus une application séparée. Deuxièmement, il est capable d'interagir avec le système et donc les composants du système, le Wi-Fi, le Bluetooth, la géolocalisation, le GPS. Et donc ça va changer pas mal de choses. Alors, ils ont quand même changé pas mal de choses dans l'ergonomie. J'ai testé un peu ce matin Shortcuts. Il semblerait que les anciens Shortcuts aient quelques petits problèmes à fonctionner
Ah.
avec la nouvelle version. Mais franchement, il y a pas mal d'espoir du côté des raccourcis, hein. Alors, une grosse déception aussi, c'est concernant Shortcuts sur macOS. On pouvait s'attendre à ce qu'ils y soient, et en fait, ils n'y sont pas. Alors vous avez un programmeur de génie qui est sur Twitter. On vous donnera le lien. Lui, il a réussi en fait à porter le shortcut iOS sur macOS. Alors il faut bidouiller un peu, mais bon. Alors faut voir maintenant qu'est-ce que ça fait. Mais bon, apparemment, c'est pas pour l'instant une priorité Apple de porter Shortcuts sur macOS. C'est un peu décevant, mais quand on voit aussi la version sur iOS, on voit qu'Apple est en train de se chercher sur Shortcuts et je pense qu'il préfère l'améliorer sur iOS avant de le porter sur macOS. Alors le Maps aussi, hein, Maps, donc il est beaucoup plus affiné, il a des possibilités beaucoup plus sophistiquées, il est beaucoup plus précis. Et Apple a précisé que Maps sera entièrement dans la nouvelle version portée pour les États-Unis, c'est-à-dire pour l'ensemble de la carte des États-Unis, d'ici la fin de l'année. Après, en ce qui concerne l'Europe et les autres pays du monde, là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais bon, on voit les voitures Apple quand même tourner, les voitures de Maps qui tournent un peu partout. J'en ai vu dans Paris l'autre fois, et donc ils essayent de scanner le maximum de choses. Et c'est vrai qu'ils font pas mal d'efforts sur Maps, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, on a aussi sur iOS, mais c'est valable aussi sur d'autres environnements, c'est Sign in the Apple.
Ah ouais,
Alors, en fait,
c'est vachement bien,
alors, en fait,
ça.
ça, c'est vachement bien.
Alors, est-ce que tu peux expliquer ce
Alors,
système?
qu'est-ce que c'est? Bah, c'est exactement la même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle une single sign-on pour pouvoir se connecter. Donc, ça existe chez Facebook, ça existe chez Google. Et puis aujourd'hui, bah, c'est la
Et
même
donc
chose chez
ça
Apple.
existe, ces petits boutons Google, Facebook, on peut se connecter, Twitter aussi permet de faire
Exactement,
des sign-in.
Twitter,
Et
exactement.
là, il y a une version Apple.
Et là, voilà, il y a une version Apple. Alors, ça marche sur iOS, sur macOS, sur le web, et ça marche sur Android, et ça marche aussi sur Windows. Donc voilà, ça marche vraiment
C'est
partout.
pensé pour tout le monde,
Voilà, c'est pensé pour tout le monde.
avec de la sécurité derrière, hein, très
Exactement, avec
fort.
de la sécurité derrière, puisque en fait, on a la possibilité aussi d'anonymiser son adresse mail. En fait, Apple génère automatiquement une adresse mail spécifique sur les serveurs Apple et qui est utilisé, donc encore une fois, hein, pour protéger la vie privée, puisque c'est une des priorités d'Apple, hein, protéger la vie privée des utilisateurs, c'est une priorité pour tous les GAFA, mais je crois que Apple a été vraiment le moteur sur ce sujet. Même s'il est critiqué aujourd'hui, je crois qu'il est quand même malgré tout en avance par rapport aux autres.
Alors bah justement, ça c'est Quentin qui nous dit ça, c'est une vraie nouveauté, c'est vraiment cool et c'est vrai que ça nous amène de la sécurité. C'est Benjamin qui dit, il y a des gros problèmes de sécurité et de failles en général sur ces boutons et là, Apple, je pense, amène une solution. C'est là une solution de confiance, hein. C'est effectivement, et on voit bien cette stratégie d'Apple qui est de prendre pied dans la logique privacy by design, hein.
Exactement, ouais.
Ce que certains autres acteurs GAFA essayent de faire, on l'a vu au F8 avec Mark Zuckerberg, hein, qui a essayé de placer cette approche totalement devant, et ben finalement, non. Là, c'est Apple qui s'y met, qui s'y colle, effectivement, et c'est plutôt pas mal. Le sign-in avec Apple, vous allez voir, je pense que vous allez être à fond là-dessus pendant pas mal de temps. C'est plutôt très très bon, hein. On continue peut-être un tout petit peu, Patrick, avec effectivement ce sujet qui nous intéresse, et l'iPad OS, il se
Alors,
passe quelque chose du côté de l'iPad.
exactement. Donc l'iPad, donc déjà, il devient totalement indépendant de iOS. Ça veut dire que Apple veut aller dans une direction certainement différente. Ce qui est logique, on s'attendait sur l'iPad à avoir un OS qui soit vraiment différent de l'iOS, et j'ai l'impression que c'est bien le cas. Donc avec iPadOS 1.0, je suppose qu'il s'appelle 1.0, j'avoue que là, je sais pas trop. Donc on a le multitâche qui arrive, qui n'était pas le cas jusqu'à présent sur iOS, puisque une fois qu'une application n'était plus sur le devant de la scène, bah, automatiquement elle s'arrêtait, hein. C'est une des forces de l'iOS d'ailleurs. On a le copier-coller avec des gestures, c'est-à-dire avec vos mains. Vous pouvez faire des éléments de copier-coller, dupliquer, revenir en arrière aussi. Le undo jusqu'à présent sur iOS, pour ceux qui ne le savent pas, il fallait secouer son iPhone pour revenir en arrière. Hein. Donc là maintenant, on peut le faire avec des mouvements avec les doigts. L'arrivée du Font Manager. Alors ça, c'est vraiment aussi quelque chose de bien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir,
Enfin,
enfin,
ajouter des
voilà,
fontes,
ajouter des fontes.
des
Voilà,
caractères, quoi. C'est super ça.
exactement,
Des
exactement.
polices de caractères,
Bon, par
c'est
contre,
super.
malheureusement, le passage de minuscule en majuscule pour une phrase, apparemment, n'est toujours pas possible. J'ai testé, parce que ça, c'est quand même
Ouais,
quelque
mais
chose
on est sur une
que
version
j'aimerais bien pouvoir faire.
1.0, c'est en bêta, là, ça va
Voilà, ouais.
arriver, ça, c'est sûr que ça va arriver.
La possibilité de connecter donc vos périphériques externes à l'intérieur du filer, en fait, hein. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc les clés USB, les cartes SD, le disque, un disque externe, hein. Alors je ne sais pas si ce n'est valable que pour les file system Apple, c'est-à-dire HFS Plus ou bien Apple File System. Alors juste
Qu'est-ce que c'est ça
une petite
pour ceux qui
remarque
connaissent pas les aspects
sur le
techniques là-dessus?
formatage de comment s'appelle de macOS. Alors avant, le système de fichiers, en fait, s'appelait HFS Plus. Et en fait, Apple a changé pour Apple File System. Donc HFS Plus et Apple File System étaient utilisés sur l'ensemble des produits Apple, que ce soit iOS ou que ce soit macOS. Et donc Apple a changé son file system de façon totalement transparente pour vous au moment où vous êtes passé à une nouvelle version d'iOS. Je crois que c'était, je ne sais plus, il y a 2 ans, je crois. Et donc ça s'est fait de façon transparente. Et ça, il faut quand même le souligner, c'est la première fois en live comme ça qu'un éditeur est capable de transformer un file system en un autre file system, et c'est un véritable exploit. Et franchement, si ça avait planté, ça aurait fait vraiment mal, parce que là, vous risquez de perdre toutes vos données sur votre machine. Et franchement, même comme Apple l'a fait, il n'y a pas eu énormément de communication là-dessus, mais c'était vraiment,
ça, c'est très fort, ça,
c'était vraiment exceptionnel. Ouais. Et donc voilà, donc, alors, par contre, je ne sais pas donc, si c'est périphérique. Supporte des possibilités de file system au niveau Windows. J'ai pas testé pour l'instant. Juste ce que je voulais dire par rapport à macOS, il faut, pour installer Catalina, que vos file systems soient en Apple File System. S'ils sont en HFS Plus, il n'est pas possible d'installer Catalina. C'est vraiment un prérequis. Autre chose sur macOS, je ne sais pas, mais normalement, le macOS est 64 bits full, c'est-à-dire qu'il n'accepte plus les applications 32 bits. Normalement, c'est le cas, mais je ne sais pas du tout si véritablement Apple l'a fait en tous les cas. Sinon, alors il y a aussi, donc je reviens sur l'iPadOS, la nouvelle version de Safari, qui est capable en fait de supporter tous les web services, c'est exactement la même version que celle qui se trouve sur le desktop, et donc qui va permettre de faire tourner des applications beaucoup plus lourdes qui sont possibles aujourd'hui avec Chrome, par exemple, et qui ne sont pas possibles sur des périphériques mobiles, de façon à faire de véritables applications au format web pour demain. Et ça, c'est une vraie avancée au niveau de Safari. Il y a aussi le Download Manager, donc au niveau de Safari, chose qu'on n'avait pas avant, exactement comme la version desktop, en fait. Donc le Dark Mode. Et puis on a la possibilité, donc avec le Sidecar, donc avec le Mac. Par contre, c'est pas valable pour toutes les versions de macOS. La possibilité de connecter l'iPad Pro pour faire en fait une continuité de votre machine macOS avec l'Apple Pencil. Et puis aussi éventuellement plugger une souris, mais bon, c'est pas terrible.
Il y a deux questions de Benjamin qui nous demandent: l'iPad devient-il plus utilisable en mobilité pour remplacer le PC? Première question. Et deuxième question: ça va demander beaucoup plus de puissance sur les iPads, non, ce système-là ou pas? Première question.
Non, je pense que ça va pas demander plus de puissance sur les iPads. Alors il faut
est-ce
bien.
Est-ce que l'iPad devient plus utilisable en mobilité, encore plus avec ça? Ouais.
Alors la réponse, ça va être très claire. Je crois que Microsoft Surface va avoir quelques petits soucis. Je pense que ça va prendre des parts de marché à Microsoft Surface, parce que là, effectivement, Apple franchit vraiment un pas supplémentaire au niveau de l'iPad. Ceux qui déjà utilisaient l'iPad pour remplacer leur machine de bureau, là, je pense qu'on a franchi un pas supplémentaire, en fait, au niveau d'iPadOS. Okay. Et il faut bien voir une chose, hein, c'est que toutes ces nouvelles versions seront disponibles qu'en fin d'année. Donc au moment où, bien évidemment, Apple va annoncer des nouvelles machines, des nouveaux iPhones, probablement des nouveaux iPads en fin d'année. Donc bien évidemment, ces nouvelles versions seront aussi conçues pour ces nouvelles machines qui auront, bien évidemment, beaucoup plus de puissance.
Alors la télé, on parle de TVOS peut-être.
Alors, TVOS, en... ouais. Alors en fait, ben l'interface, donc elle a été refaite, le design a été refait. Sur TVOS, la possibilité de mettre les contrôleurs, donc de PlayStation et puis de Xbox. Alors ça, c'est pas mal, franchement. C'est mieux que si Apple nous avait sorti sa propre manette de jeu à un prix totalement prohibitif. Donc franchement, c'est mieux, puisqu'en plus, probablement que les gens ont des consoles de jeu, donc ils ont déjà ce qu'il faut. Donc il suffit simplement de le brancher sur votre Apple TV. Et donc ça donne ça permet aussi, et ça montre bien la volonté d'Apple avec Arcade, c'est-à-dire en fait son environnement de jeu, donc sur lequel, sous forme comme un petit peu Netflix, hein, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants pour l'instant, mais va offrir la possibilité d'utiliser un certain nombre de jeux de façon probablement illimitée avec un abonnement. Donc ça fait partie des nouveaux services Apple Arcade. Et donc, eh bien, Apple franchit à nouveau un pas au niveau de tout ce qui concerne en fait les jeux. Et là, grâce à cet Apple TV, et puis avec les contrôleurs, ben, on pourra jouer comme on veut sur la machine, et ça permet donc à l'Apple TV de servir à autre chose que de regarder des films ou des séries.
Ok, on parle un peu de WatchOS, on va aller faire un tour du côté de la Watch. Il se passe des choses avec WatchOS 6. Elle commence à prendre une vie propre, cette montre, ouais, c'est ça.
Exactement. Ouais. Petit à petit, de version en version, de façon incrémentale, eh bien, l'Apple Watch se détache de son iPhone, jusqu'à devenir indépendant. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que d'ici l'année prochaine ou d'ici l'année d'après, si Apple sort des lunettes, je pense qu'ils feront exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il sera très attaché à l'iPhone et puis petit à petit se séparer. Apple d'ailleurs fait souvent lui-même des copier-coller à chaque fois qu'il fait des choses, et il est fort probable que en fait Apple prépare aussi le terrain pour ces fameuses lunettes, la façon de procéder. Et donc on voit bien sur l'Apple Watch que petit à petit, eh bien, elle devient indépendante jusqu'à bientôt ne plus avoir besoin de pouvoir se connecter à un iPhone. En fait, elle a en plus son propre Apple Store maintenant pour avoir ses propres applications. Xcode pour le développement permet de pouvoir développer des applications spécifiques pour la Watch directement à l'intérieur, et non plus des éléments supplémentaires entre votre application iOS et puis une extension pour l'Apple Watch. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore?
Il y a une appli aussi sur tout ce qui est justement la gestion des menstruations, hein, c'est ça,
pour
les femmes.
Exactement.
Intéressant de voir effectivement que c'est aussi un pas de plus sur la Watch par rapport à la santé.
Exactement.
On voit une plus grande connexion par rapport à la santé. Sur iOS 13, d'ailleurs, il y a des trucs aussi intéressants. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que sur la santé, on commence à avoir un peu plus de statistiques, d'éléments. Il y a plein de petites nouvelles fonctions.
Tout à fait.
On
s'attendait à des éléments sur le sommeil. Apparemment, pour l'instant, ça n'y est pas. Mais bon, encore une fois, c'est la première bêta. Il peut y avoir des choses supplémentaires qui arrivent. Il peut y avoir des choses qui vont disparaître. Donc, effectivement, ça va s'affiner. Mais effectivement, la partie santé. Alors, apparemment, l'application santé a été revue. Moi, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas si tu as vu PPC. Design, apparemment, a été un peu refait.
C'est léger. C'est pas.
Mais j'ai pas vraiment vu.
Il y a un peu plus d'informations. Information. Et puis il y a aussi une connexion avec l'activité, c'est-à-dire les parties activité qu'on pouvait trouver, vous savez, c'est ces petits cercles là, de selon le nombre de pas que vous faites durant la journée, de vos activités, le nombre d'étages, etc. Ben, cette partie activité se loge un peu plus avec la partie santé. Du côté des devs, il y a Xcode.
Ouais. Et il y a surtout.
Alors, Xcode, tu peux expliquer, et puis Swift aussi.
Alors, Xcode, en fait, donc, c'est l'environnement de développement de macOS, d'iOS, donc pour les développeurs. Hein, c'est l'outil pour les développeurs, c'est l'IDE qui permet en fait de pouvoir développer. Alors, historiquement, en fait, chez Apple, il y avait d'abord un produit dans les tout débuts, hein, un produit très propriétaire Apple, mais que peu de gens ont utilisé, jusqu'au moment où, ça rappellera peut-être des choses à certains, est sorti CodeWarrior. CodeWarrior qui était en fait l'outil donc, que les développeurs ont adopté. Donc c'était pas un outil Apple, et puis Apple s'est dit, il faut absolument que je sorte mon propre outil. Et c'est là qu'ils ont commencé à développer Xcode, et qui est devenu véritablement la référence. Il y avait Symantec aussi avant qui faisait des outils. Et voilà. Et donc Xcode, c'est vraiment le produit pour les développeurs. Et il y a une annonce majeure quand même, qui a, on va dire, pour les développeurs, je pense, est vraiment, vraiment très important, et qui va en fait dans le sens de la volonté d'Apple pour que tout le monde demain puisse coder en fait, de 16 à 77 ans, et voire plus, et voire moins, pour pouvoir coder. En fait, Apple a annoncé quelque chose qui s'appelle Swift UI, qui permet, en fait, c'est une sorte de brique Lego, donc vous l'utilisez à l'intérieur d'Xcode, donc qui contient, en fait, du code déjà pré-mâché, et en fait, vous avez simplement à faire du glisser-déposer, et votre code automatiquement est créé. Voilà, alors après vous pouvez à la main, si vous voulez, le modifier et en live. Et bien évidemment, vous avez le simulateur, donc soit d'iOS, soit de macOS, soit de votre Apple Watch. Et vous pouvez voir en temps réel les modifications qui sont faites au fur et à mesure de la programmation. Alors bien évidemment, c'est entièrement en Swift. Alors il faut savoir que historiquement, en fait, Apple avait son propre langage, qui est une extension de C++, en fait, qui s'appelle Objective-C. Et puis, Apple, petit à petit, est passé à un langage beaucoup plus accessible au grand nombre, qui s'appelle Swift, en fait, hein. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment programmer en live. Si vous êtes en train de programmer, ben vous voyez exactement ce qui se passe au fur et à mesure, bon, pour le débugage, pour ceux qui apprennent la programmation. C'est vraiment super, quoi. C'est vraiment des possibilités pour justement que le plus grand nombre puisse accéder à ce type de fonctionnalité. Et on voit bien la volonté d'Apple que tous les développements soient faits, en fait, avec ce langage qui est Swift.
Alors, on parle un peu hardware pour finir cet épisode très spécial sur la WWDC 2019. Je suis avec un expert, il s'appelle Patrick, vous le connaissez, il connaît ça à fond la caisse. On parle hardware, WWDC, iOS 13. Il y a eu aussi quelques annonces de matériel.
Alors là, on l'attendait tous. Tout le monde attendait de savoir comment Apple allait ressortir son Mac Pro. Et là, j'avoue que c'est une sacrée surprise. Alors, il y en a beaucoup qui se moquent, hein, qui pensent que c'est une râpe à fromage qui est sortie, le design d'une râpe à fromage. Mais franchement, alors c'est un design absolument surprenant. Moi, je vous avoue que j'ai pas eu l'effet waouh, mais j'étais très étonné. Alors, bien évidemment...
Et c'est très intéressant, parce que notamment au niveau de tout ce qui est ventilation, c'est vachement bien pensé.
Oui, absolument. C'est alors, ceux qui ont connu le Mac Pro G5 aluminium, j'en ai un. Je peux vous dire qu'il a exactement les mêmes dimensions, parce que je l'ai mesuré. Oui. Et en fait, Apple en fait a repris ce qui a fait le succès du Mac Pro. Mais il l'a entièrement redesigné. Alors, il faut voir que Johnny Ive, qui est donc le designer, le patron du design, s'était très inspiré à l'origine de Braun, en fait, hein, et du designer de Braun. Et là, on a vraiment, si vous allez voir les designs de Braun, vous allez vraiment voir quelque chose qui ressemble de plus en plus à ce design. Alors, il s'était détaché parce que on avait des choses beaucoup plus rondes, hein, surtout les produits Apple, beaucoup plus. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus brut, mais je trouve, enfin, franchement, le design est vraiment très, très étonnant. Et je ne serais pas étonné parce que, bien évidemment, Apple a annoncé aussi un écran. Et je ne serais pas étonné
qui n'est pas donné, d'ailleurs.
Qui n'est pas donné. Mais néanmoins, disons qu'il est apparemment dans les prix du marché. La seule chose, c'est que, en fait, son pied n'est pas fourni avec. En fait, il faut mettre 999 $ en plus pour avoir le pied. Bon, alors ça a surpris les développeurs, hein. Si vous regardez la vidéo, vous allez voir, dans la salle, il y a eu un effet un peu « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi ça ?» Et ouais, ça a acheté un peu un froid.
Non, mais l'écran n'est pas très cher comparé au pied, c'est ça qui est sympa. Je pense que c'est peut-être l'objectif, non?
C'est ça, ouais, je sais pas. Et donc, le design de cet écran, il y a fort à parier que les nouveaux iMac, ou tout au moins le nouvel iMac Pro, ils retrouvent en fait ce type de design. Donc quelque chose de beaucoup plus carré. Je crois que beaucoup de gens demandaient à ce que Ive fasse des choses moins fines. Eh ben, je crois qu'on est parti dans cette direction, et je pense que les produits Apple et le design d'Apple est en train de véritablement changer et de prendre une nouvelle direction. Et sinon, alors c'est une bête de course ce Mac Pro, hein. Franchement, Apple a fait quand même très fort. Il est très modulaire. Il est très puissant, il est quand même très très cher, il faut reconnaître ce qui est. Mais si vous prenez véritablement une station de travail sur le marché, concurrente, bah vous verrez qu'au niveau des les prix sont quand même relativement raisonnables pour pour ce type de machine.
D'accord, ben on a fait un sacré tour là. Merci Patrick, c'était fabuleux.
Bah c'était super, hein.
C'était super, on a, je crois, fait bien balayer. Vous pouvez écouter, bien entendu, cet épisode, le réécouter sur vos plateformes de balado-diffusion préférées. Prochain épisode, ça sera un petit best-of. Et puis, on va se retrouver ensuite avec un autre épisode sur le Edge Computing. Je vous laisse, à très bientôt sur Bonjour PPC. Ciao.